السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ فرع الإسلام، شيخ سرع الإسلام، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, qui nous donne la possibilité de nous réunir en ce dimanche, du premier dimanche parmi les quatre ou les cinq dimanches de ce mois de Ramadan, de se réunir donc dans cette masjid Quwwatul Islam de le quartier de Sainte-Clotilde, avec pour but uniquement de parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif est de se rappeler des bienfaits qu'Allah azza wa jalla nous a accordés en tant que musulmans, en nous ayant accordé la foi, le iman, mais également de parler de ce mois béni, de ce mois de Ramadan, et quelles sont les vertus, quelles sont les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux musulmans durant ce mois. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans un hadith: لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que si seulement l'être humain savait quelles sont les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde durant ce mois, alors on aurait tous souhaité que les 12 mois de l'année fussent Ramadan. Si on savait comment Allah azza wa jal accorde des hasanats, des récompenses aux musulmans durant ce mois, on aurait souhaité passer l'intégralité de l'année en état de jeûne pendant le Ramadan. Alors que à l'heure où on est en train de parler, on est parfois fatigué, certains ils ont déjà faim, ils ont soif. C'est-à-dire que c'est clair que le jeûne est un ibada éprouvant. Le jeûne est un acte d'adoration qui est extrêmement physique, extrêmement éprouvant. Donc on peut se demander comment est-ce qu'un être humain peut souhaiter être dans cet état pendant 360 jours de l'année ou 365 jours de l'année. Mais si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, si seulement لو يعلم الناس, si seulement le musulman était conscient, parce que nous ne pouvons être entièrement conscients des récompenses qu'il y a dans le jeûne du Ramadan. On peut savoir certaines choses parce qu'il y a certains hadiths qui parlent des vertus du jeûne, des récompenses, mais la plupart des récompenses concernant le jeûne du Ramadan ne sont pas énoncées ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, ni dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en échange, Allah Ta'ala, c'est comme si Allah Azza wa Jal faisait durer, on pourrait dire entre guillemets, le suspense, et Allah Ta'ala annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux musulmans que le jeûne, c'est un acte d'adoration spécial qui m'appartient. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne m'appartient et c'est uniquement moi qui en rétribue. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'indice sur le genre ou la qualité des rétributions, la quantité des rétributions du saum, du jeûne du Ramadan, dans l'au-delà, le jour des comptes. Allah Ta'ala le garde caché. Et si Allah Ta'ala a promis que c'est lui qui en récompensera personnellement, c'est que réellement la récompense sera énorme. Réellement, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, a décidé pour chaque jeûneur musulman, musulmane, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a juste également un indice qui nous fait comprendre que cette récompense, elle va être énorme. Parce qu'à l'aboutissement de cette récompense, il y a, pas d'une manière générale, le paradis comme pour toutes les actions. En plus de ça, il y a une porte spécifique pour les jeûneurs dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans le paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et cette porte, elle est dédiée aux jeûneurs, musulmans et musulmanes. Donc à travers ces deux indices, on se rend compte, on peut imaginer déjà qu'on connaît qu'Allah Ta'ala est généreux, Allah est clément, Allah récompense chaque musulman et chaque musulmane beaucoup plus que ce qu'il mérite normalement. Pour toutes les actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'al-hasanatu bi'ashri amthaliha, que pour chaque bonne action accomplie par un musulman, la récompense au minimum est multipliée par 10. N'importe quelle action que je fais, quelle que soit la période de l'année, au minimum Allah m'en accorde 10 fois l'équivalent de récompense. Donc on connaît déjà qu'Allah Ta'ala est généreux. On connaît également Les récompenses de la sadaqa. Les versets que celui qui donne quelque chose, un dirham ou un dinar ou une quelconque somme d'argent dans la sadaqa, on connaît quelles sont les récompenses, que c'est comme un épi. Un épi a combien de graines, etc., etc. Les récompenses sont multipliées. Mais là, c'est même pas annoncé. Pas qu'on comprenne bien que cette récompense, elle est énorme. Et le fait, comme on a dit, de savoir qu'à l'aboutissement, il y a une porte spéciale dans le paradis pour les jeûneurs qui se sont appliqués de leur jeûne, qui restaient attachés à cet acte d'adoration, on comprend, mes chers frères, mes chères sœurs, que le carême du Ramadan, le jeûne, c'est un autre niveau. En termes de ibada, c'est quelque chose qui dépasse tout. Il y a un hadith d'Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, de lequel il y a l'histoire, c'est un hadith classique qu'on a l'habitude de raconter, de citer tous les premières décades du Ramadan. Hadith dans lequel, dans les populations avant nous, il y avait trois jeunes qui se dépassaient mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Ils faisaient le maximum pour faire le plus de bonnes actions avec sincérité. Et parmi ces trois jeunes, il y a un qui est décédé dans le chemin d'Allah. Il est mort dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire quelque chose de souhaitable. On pourrait dire que c'est la plus belle des morts. Quelqu'un qui donne sa vie pour Allah. Et une année plus tard, ses deux amis sont morts, l'un après l'autre, mais de mort naturelle. De mort naturelle. Ils ne sont pas morts dans le chemin d'Allah. Alors on pourrait se dire que celui qui est mort dans le chemin d'Allah, assurément, il a un grade supérieur, un grade plus élevé. Mais paradoxalement, on vit en rêve que la personne, les deux personnes qui sont mortes un an après de mort naturelle avaient un grade supérieur à celui qui est mort dans le chemin d'Allah. Alors on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce possible? Alors qu'en temps normal, on sait que quelqu'un qui meurt dans le chemin d'Allah, avant même que son sang ne touche le sol, avant que la personne meure réellement, ses péchés sont déjà effacés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Parmi les raisons qu'il a données, c'est que ces deux personnes qui ont vécu une année en plus, ils ont eu l'opportunité, ils ont eu l'occasion de jeûner un Ramadan en plus que leur camarade qui est décédé. Les deux qui sont morts de mort naturelle, mais une année plus tard, ont eu la possibilité de jeûner un Ramadan en plus que leur camarade qui pourtant est décédé dans le chemin d'Allah. Et les muhaddithin en commentaire, ils expliquent que on déduit par ce récit que quelqu'un qui jeûne un Ramadan, c'est une ouverture, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et on ne peut pas s'imaginer comment Allah Ta'ala peut nous faire avancer, comment Allah Ta'ala peut nous élever uniquement en répondant présent parmi tous les musulmans qui vont jeûner durant le mois de Ramadan. Mes chères sœurs, en islam, le jeûne, en plus d'être une action qu'Allah Ta'ala nous a accordée, par le biais du verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, certes c'est une action qui est propre à notre religion, mais Allah Ta'ala annonce aussi dans ce verset kama kutiba alal ladina min qablikum, que le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit aux communautés avant vous. C'est-à-dire que les gens qui sont venus avant notre communauté, les Ahlul Kitab, les Juifs et les Chrétiens, les Yahoud, les Nasara, eux aussi jeûnaient le Ramadan. Eux aussi avaient eu ce cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, il écrit, il dit que لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. Dans le commentaire d'Ibn Kathir, Hassan al-Basri rahimahullah dit que le jeûne, comme il nous a été prescrit également aux communautés avant nous, un mois complet des jours précis fixés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on analyse les commentaires de ce verset, nous voyons que les ulama, ils ont détaillé comment était le jeûne des personnes avant nous. Selon certaines opinions, Nuh alayhi salam, lui, il jeûnait toute l'année. Nuh alayhi salam jeûnait toute l'année. Daoud alayhi salam, ça on connaît, il avait l'habitude de jeûner un jour sur deux. Un jour il jeûnait et un jour il ne jeûnait pas pendant toute l'année. Selon certaines versions, Isa alayhi salam avait l'habitude de jeûner un jour sur trois. Un jour il jeûnait et deux jours il ne jeûnait pas, ou alors parfois trois jours il ne jeûnait pas, mais il faisait plus de deux jeûnes par semaine. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique également comment les Yahoud, les Nasara, avec plus de détails, comment ils jeûnaient, et puis comment peu à peu, ils ont perdu le Ramadan. Comment peu à peu, à force de jouer avec la religion, à force d'y apporter des touches personnelles, ils ont malheureusement perdu la valeur de ce jeûne, et finir par perdre même la notion de Ramadan, et perdre les jours du Ramadan. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala prend soin d'expliquer dans ce verset que le jeûne a été prescrit aux autres populations avant. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala tout simplement a prescrit le jeûne du Ramadan à toute l'humanité, à toute personne qui ont dit la ilaha illallah, qui ont attesté qu'Allah est le Dieu unique. Et si Allah l'a décrété, si Allah a décidé que le jeûne soit obligatoire pour tout le monde, à toutes les époques, on sait bien qu'Allah Ta'ala c'est notre créateur. Allah c'est le créateur de l'univers et entre autres le créateur de l'être humain. Et on sait qu'Allah Ta'ala il est al-Hakim. Allah Ta'ala est juste, Hakim et Adl. Allah Ta'ala est sage. Allah Ta'ala sait exactement pourquoi il crée telle race de créature et pourquoi il prescrit telle action, pourquoi il interdit telle autre action. Et si Allah Ta'ala a décidé que toutes les personnes qui croient en lui, à toutes les époques, vont devoir observer le somme, observer le jeûne, c'est qu'Allah Ta'ala sait pertinemment qu'est-ce qu'il y a à gagner pour l'être humain dans le jeûne. Allah Ta'ala sait exactement ce qui est bon pour nous, tant sur le plan physique, sur le plan spirituel, mais également pour la stabilité psychologique de l'être humain. Et l'objectif du jeûne est énoncé dans le verset. Si Allah l'a prescrit pour toutes les communautés et à nous aussi, c'est parce qu'Allah Ta'ala attend une chose de toutes les croyants, tous les croyants, toutes les croyantes. C'est la'allakum tattaqun. C'est l'objectif principal, c'est que l'être humain arrive à la piété. C'est jeûner pour arriver, pour développer la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est avoir dans notre cœur la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous. Et qu'Allah ta'ala nous observe. Et qu'Allah ta'ala nous entend. Et que chaque action que je fais, chaque parole que je prononce, chaque pas que je vais faire, Allah ta'ala, il voit et Allah ta'ala est conscient de ce qu'on est en train de faire. La taqwa, c'est développer l'amour et la crainte d'Allah dans notre cœur. C'est arriver à une situation de foi, de spiritualité, une telle situation que, avant d'accomplir chaque bonne action, je ressens la grandeur d'Allah dans mon cœur. Et rien ne peut m'empêcher de faire la bonne action, parce que j'ai une envie ultime de me rapprocher d'Allah, de rechercher son contentement, son agrément. Et face au péché, jamais je ne vais sombrer dans l'erreur. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je suis parfaitement conscient qu'Allah est en train de m'observer, qu'Allah me voit. Et donc, je ne peux pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la taqwa. Celui qui arrive à développer ça dans son cœur, ce musulman, assurément, restera sur le droit chemin jusqu'à la mort. Parce que celui qui a la taqwa dans son cœur n'abandonnera pas une obligation. Celui qui a la taqwa dans son cœur ne négligera jamais une obligation et n'accomplira donc, inshallah, jamais un péché parce que cette personne-là a tout compris. Donc le Ramadan a pour but de développer, d'instaurer, d'apprendre la taqwa à chaque musulman. Et si le Ramadan est périodique, ayyam ma'doudat, intervient une fois de l'année pendant un certain nombre de jours, on pourrait dire que le Ramadan a également pour but de réparer la foi de chaque mu'min, de réparer, de restaurer le iman de chaque croyant, de restaurer l'état spirituel de chaque croyant. Parce que certainement, après une année, depuis le Ramadan 1432, depuis le Ramadan de l'année dernière de 2011, après 11 mois passés, quand on redémarre un autre Ramadan, si on fait un bilan, si on se retourne et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait comme bonne action et comme mauvaise action, c'est sûr que notre foi n'est pas dans un bon état. Après 11 mois depuis le Ramadan de l'année dernière, chaque personne a certainement accompli des péchés. Chaque personne a certainement fait des erreurs. Et il n'y a pas, comme on expliquait dans le programme pour les messieurs hier soir, pour le Salat al-Tarawih, il n'y a pas un être humain qui peut dire qu'il est parfait, qu'il ne fait pas de péché. Impossible. À moins d'être un prophète, aucun être humain, aucun insan ne peut se dire ou ne peut être persuadé ou se persuader que lui, il ne fait pas de péché. Tout être humain accomplit des erreurs. Et après un an, sans le moindre doute, on se présente devant ce mois de Ramadan avec un cumul de péchés, avec une quantité d'erreurs amassées. Et quel que soit son niveau, on peut être né musulman, ou alors on s'est converti durant notre vie, ou alors même on peut être un savant, on peut être un hafiz du Coran, on connaît le Coran par cœur, on peut être un fundi, quel que soit notre niveau spirituel, notre niveau de connaissance religieuse, il n'y a pas un être humain qui n'accomplit pas de péché. Et quelle que soit la nature des péchés, les péchés peuvent être en relation avec les actes d'adoration, les négligences par rapport au ibadah, ou en relation avec le comportement, ou en relation avec le mu'amala, notre manière de travailler, de gagner notre vie quotidienne. Donc on pourrait dire que le Ramadan également a pour but de permettre aux croyants et à la croyante de se reconstruire. Que chaque mu'min puisse combler un petit peu les manquements cumulés durant l'année et demander tawbah pour les erreurs qu'il a pu faire par inadvertance durant les 11 mois depuis le dernier Ramadan. Car dans ce mois, mes chers sœurs, Allah Ta'ala accorde 4 choses spécifiques. Il y a 4 bienfaits spécifiques durant ce mois. Le premier de ces bienfaits est un bienfait général. Un bienfait général qui couvre toute la Ummah depuis le premier jour du Ramadan jusqu'au dernier jour du Ramadan. Et parmi ces bienfaits, il y a les hadiths qui disent que durant ce mois, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées durant tout le mois de Ramadan. Également durant ce mois, les shayatines sont enchaînées. Durant ce mois également, Allah Ta'ala wa yastajibu fihi ad-du'a. Allah Ta'ala exauce les invocations, les doigts du musulman. Et durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne également les péchés, efface les péchés du musulman. Et durant ce mois également, il y a des choses spécifiques. Il y a les malaïkas qui sont présents en permanence, surtout au début de la journée, lorsqu'on prend le repas du suhoor, le petit déjeuner, donc avant de commencer le carême, le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'il y a des anges qui sont présents. Oui, ils font des doigts, ou le malaïkatu, ils font des doigts à l'al-mutasahirin, ou yastaghfiru lahum. Les anges demandent doigts à Allah pour les personnes, les musulmans qui sont réveillés pour le sihri, et ils demandent tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes. Donc, il y a des bienfaits généraux pour tout croyant durant ce mois. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il y a durant ce mois, c'est qu'il y a la possibilité de se rapprocher d'Allah par des actes d'adoration spécifiques au mois de Ramadan, ou alors des actes d'adoration qui vont prendre une toute autre dimension durant ce mois. Des actes d'adoration que peut-être on fait déjà durant toute l'année, mais qui auront une valeur spéciale pendant les 29 ou les 30 jours du mois de Ramadan. Deuxièmement donc. Troisièmement, durant ce mois, il y a une immunité contre toutes les personnes ou les facteurs qui nous poussent vers le péché ou qui nous empêchent de faire les bonnes actions. Durant ce mois, il y a une immunité, une protection contre les facteurs, les choses qui nous font accomplir des péchés ou qui nous empêchent de faire les bonnes actions. Et quelles sont les deux choses qui poussent l'être humain à faire des péchés? Tout d'abord, shaitan. Et deuxièmement, le nafs, ce qu'il y a dans le cœur. Inna nafs ala ammaratun bisu. Ce nafs qui pousse l'homme, l'ego, qui pousse l'homme à accomplir des péchés. On a une protection contre ces deux choses. Ça fait 3 bienfaits. Et quatrième chose spéciale, quatrième bienfait, dans ce mois, Allah Ta'ala nous a donné la possibilité de faire notre propre correction. Allah Ta'ala donne aux musulmans la possibilité de se corriger intérieurement par le biais de certains actes d'adoration, certains actes qu'il va faire au quotidien, et cela va l'habituer à obéir à Allah. Cela va l'inciter, va l'éduquer pour qu'il délaisse définitivement les péchés qu'il accomplissait durant toute l'année. Donc il y a des choses spéciales dans ce mois, et principalement ces 4 choses. Le premier point, c'est plus ou moins connu, hein, comme on a dit tout à l'heure, les bénédictions en général qu'il y a durant toute l'année, depuis qu'on trouve la lune du premier Ramadan jusqu'à ce qu'on trouve la lune du Shawwal, les portes du paradis restent grandes ouvertes. les portes de l'enfer restent fermées, etc., etc. Toutes ces vertus-là, c'est pour tout musulman dans le monde entier. Et notre prophète, et la deuxième chose, on va passer au deuxième point. Le deuxième point qu'on a dit tout à l'heure, qu'on va détailler un peu plus, il y a la possibilité pour le musulman d'obtenir des récompenses exceptionnelles par le biais d'actions, soit qui sont spécifiques, propres au Ramadan, ou alors des actions du quotidien qui auront une valeur spéciale durant ce mois. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que raka'atun fihi afdalu min alfi raka'a. Quand un mu'min accomplit la prière, la prière, c'est des actions qu'on accomplit régulièrement toute l'année, que ce soit les prières obligatoires ou les prières qui sont nafil. Mais dans le mois de Ramadan, une unité de prière vaudra plus de 1000 unités de prière en termes de récompense. Quand un mu'min accomplit, comme quand on est entré dans la masjid, hein, on a fait deux salats, deux raka'at, on a fait deux unités de prière avant de s'asseoir, ce qu'on appelle le tahiyyatul masjid, d'accord. Mais ces deux unités de prière, subhanallah, on doit avoir la conviction que dans le Ramadan, deux est multiplié, inshallah, par mille, min alfi raka'at. Donc ça nous donne une récompense de 2000 raka'at. Chose que humainement on n'aurait pas pu faire en 24 heures, impossible. Si quelqu'un se réveille depuis Tahajjud, il fait des rak'at nafil en permanence jusqu'au soir, on ne peut pas cumuler 2000 rak'at nafil, c'est impossible. Alors que dans le mois de Ramadan, vous faites une unité de prière, un rak'at, Allah vous en rétribue 1000 fois plus. Ça, c'est quelque chose qui est propre au mois de Ramadan. Comment est-ce qu'un musulman peut laisser passer une telle occasion? Comment est-ce que un mu'min qui a conviction sur les promesses d'Allah et les promesses de son prophète Ali salatu wassalam peut laisser passer une telle chance de cumuler des hasanat? Parce que vous savez, le jour des comptes, on fait un bilan comptable. Le jour des comptes, quand Allah Azza wa Jal nous remet à chaque musulman, chaque musulmane, son livret d'action, et lorsqu'Allah Ta'ala nous dira Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, qu'Allah Ta'ala remettra à chaque individu son livret de compte. Certains le recevront dans la main droite, fièrement. Ils seront heureux de montrer aux gens qu'ils ont reçu le livret de compte dans la main droite. Parce que quand on reçoit le livret de compte dans la main droite, c'est qu'on a réussi notre passage sur la terre. Ce livret de compte, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ce livret de compte, on l'a depuis qu'on est baligh. Jusqu'à notre mort, ce livret de compte, il est quelque part. Et il y a des anges qui écrivent dessus. Ils écrivent en permanence. Chaque action que j'accomplis, chaque parole que je prononce, il y a des anges qui ramènent. Ils sont là et ils écrivent toute action, toute parole, chaque geste, chaque fait et geste de l'être humain. Ils ne laissent rien passer parce qu'ils ont reçu cet ordre de la part d'Allah. C'est leur mission. Ils ont été créés pour ça. Et quand un ange a été créé pour quelque chose, quand Allah Ta'ala l'a missionné de quelque chose, les anges, la ya'asuna Allah ma amarahum, jamais ils ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué, je pense ici même à Saint-Clotilde, il y a deux ans, trois ans, l'opinion d'Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah à propos de ce hadith, hein, sur les anges, dit que même quand quelqu'un est malade et qu'il soupire, même quand quelqu'un est malade et qu'il soupire, hein, il crie un petit peu, il râle un peu de douleur, ou quand on a la fièvre, on a l'habitude parfois de soupirer ou de crier parfois un petit peu. Même ça, Imam Ahmad dit, même ce cri-là, les anges notent. Parce que leur mission, c'est de noter tout ce qui sort de cette bouche. Et de noter tout ce qui sera accompli par ses mains, ou chaque pas accompli par ses pieds. C'est leur mission. Et puis le jour des comptes, on fera le tri entre les bonnes paroles, les mauvaises paroles, et les paroles neutres, c'est-à-dire les paroles qui sont ni bons ni mauvais, qui n'ont aucun sens spécifique, et ça sera annulé. Ça, c'est pour qu'on comprenne bien, pour qu'on prenne bien conscience qu'il n'y a pas une action ou un geste ou une parole qui est faite ou prononcée par un être humain sans que les anges l'inscrivent dans le livret de compte. Et cela jusqu'à notre mort. Et quand le mu'min meurt, le livret de compte est fermé, le livret de compte est plié. Et selon certaines sources, les livrets de compte vont sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, le mahshar, les livrets de compte sont distribués. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui vont le prendre dans la main droite, qui vont l'avoir dans la main droite. Ils seront tellement fiers qu'ils vont prendre le livret de compte le montrer à l'humanité. Ils vont dire « Ha, umuqra'u kitabiya ». Ce sont là des scènes de l'au-delà qu'on peut comprendre, qu'on peut ne pas comprendre, qu'on peut réaliser, qu'on peut ne pas réaliser, en fonction de notre degré de iman, de notre conviction en Allah, de notre degré de foi. On peut le comprendre immédiatement, ou alors on peut juste le comprendre comme une image. On ne peut pas vraiment le réaliser si on est un peu éloigné de la religion. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des paroles véridiques. Les paroles d'Allah qui décrit le futur de l'être humain, la situation de l'être humain dans le monde de l'invisible au moment où les comptes ou les livres seront remis. Et dans cette situation-là, il y aura malheureusement des personnes qui vont avoir le livret de compte à la main gauche derrière leur dos. Et ce seront les hommes les plus malheureux de la race humaine. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un reçoit son livret de compte à la main gauche derrière son dos, c'est un signe que son passage sur terre était mauvais, qu'il n'a pas été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la pire des catastrophes. C'est pire que si un huissier vienne chez vous et vous dit qu'on saisit tout, votre maison, vos meubles, votre voiture, on prend tout et vous êtes à la rue avec vos enfants. Et qu'en même temps, votre femme, votre épouse vous annonce que je te quitte. T'as plus de maison, t'as plus d'argent, t'as plus de travail, je m'en vais, je retourne chez mes parents. Et qu'un homme, un père de famille, perd sa maison, perd ses biens, perd sa femme, perd ses enfants. Et qu'en même temps, un médecin il vient et vous annonce, voilà, ça c'est vraiment des scénarios catastrophiques, hein. Il vous annonce, voilà, vous avez fait des analyses de sang, je vous annonce que vous avez un cancer. Et que donc vous êtes tellement malade qu'il faudra vous hospitaliser, vous allez peut-être bientôt mourir, etc. Imaginez la situation d'un homme, de ce dunya, qui en l'espace de 10 ou 15 minutes reçoit autant de mauvaises nouvelles, autant de claques. On va dire que c'est l'homme le plus éprouvé du monde. Mais ce n'est rien, rien de rien de rien par rapport à une personne qui, le jour des comptes, comprend qu'Allah Ta'ala n'a pas accepté son passage sur le dunya, qu'il n'a pas réussi l'épreuve de ce dunya. Il n'a pas su adorer Allah comme il aurait dû le faire. Il n'a pas su rester éloigné du haram comme il aurait dû le faire. Et quand la personne se présente maintenant en étape suivante, au niveau du mizan, le mizan c'est quoi? La balance. On pèse les bonnes actions et les mauvaises actions. Alors là, les textes du Coran expliquent qu'il y aura un mu'min qui essaiera d'interpeller sa femme, son père, ses enfants, parce qu'il est en manque de bonnes actions. Se rend compte qu'il n'a pas suffisamment de bonnes actions pour faire pencher la balance dans le bon sens, du bon côté, pour accéder au paradis. Lorsqu'il voit ses bonnes actions et lorsqu'il voit ses péchés, se rend compte qu'il est en train de prendre le chemin de l'enfer, qu'Allah nous protège. Et là, il va essayer de solliciter ses proches pour avoir quelques hasanat. Mais ce jour-là, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, ni vos biens, ni vos enfants, ni vos proches ne vous seront d'une quelconque utilité. L'homme ne connaîtra plus son épouse. Le papa, un père de famille, un père c'est quelqu'un, subhanallah, l'amour d'un père pour ses enfants, c'est indescriptible. L'amour d'une maman pour ses enfants, c'est indescriptible également. La maman, ni le papa, ne voudra plus voir les enfants le jour des comptes. Il ne voudra même plus entendre parler de l'enfant qui les sollicite pour une bonne action. L'enfant qui aime ses parents normalement ne voudra même pas voir ses parents le réclamer quelque chose, parce que le jour des comptes c'est nafsi nafsi, chacun se préoccupe de sa situation. En ce jour, les gens deviennent profondément égoïstes parce qu'ils ne sont pas en train de jouer quelque chose de ce dunya, ils sont en train de jouer leur akhirat, leur éternité. Et le jour des comptes également, chaque personne va voir quelque chose d'atroce, qui fera que personne ne pensera plus à son prochain. Chaque être humain sera éprouvé par la vision de l'enfer. Et quand quelqu'un a vu l'enfer, la personne devient traumatisée. La personne sera effrayée. Et le seul désir qu'il aura dans son cœur, c'est « Oh Allah, je ne veux pas ça ». Même les anbiya alayhim salatu wa salam, les prophètes vont voir l'enfer, parce que l'enfer se présentera devant l'assemblée, devant tout le monde, avec ses chaînes, avec les malaïka, avec les anges qui retiennent l'enfer. Là aussi, cette description de l'enfer, c'est une description du monde de l'invisible. On peut le comprendre, on peut ne pas le comprendre. On peut avoir une conviction inébranlable sur ce texte, ou on peut être dubitatif, mais en aucun cas on ne peut douter. Si on n'a pas une foi solide, on ne va pas comprendre ce qu'Allah Ta'ala nous annonce. Mais si on a iman dans le cœur et conviction sur tout ce qu'Allah nous annonce, on aura conviction. Quand Allah Ta'ala annonce que l'enfer va se déchaîner, parce que l'enfer, ce n'est pas comme le feu du dunya, par rapport à l'intensité, bien sûr, mais également, le feu du dunya, ce n'est pas quelque chose de vivant, c'est quelque chose de chimique. Le feu de l'enfer est une créature vivante. Ce n'est pas qu'un feu avec de la fumée, avec des braises, avec... Non, le feu de l'enfer est une créature vivante, une créature qui parle, une créature qui interpelle, une créature qui demande des doigts à Allah. Et le jour des comptes, l'enfer va demander à Allah subhanahu wa ta'ala « Hal mim mazid ». Il va demander à Allah « Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ?» يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٍ. Il y aura beaucoup de gens qui seront déjà entrés dans l'enfer, qu'Allah nous protège, et l'enfer ne sera pas satisfait. C'est comme si que l'enfer a encore faim. Il va dire, Allah, est-ce qu'il y a encore des gens? L'enfer attend, parce que depuis qu'il a été créé, il attend ce moment, brûler les personnes qui ont osé désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou adorer autre qu'Allah. Donc, quand un être humain a déjà vu le Jahannam, l'être humain ne connaît plus personne. L'être humain ne connaît plus ses enfants, sa femme, ses parents, parce qu'il a tellement peur. Et dans certaines choses, c'est dit que les Anbiya alayhim salatu wassalam vont tomber à genoux. Lorsqu'ils vont voir l'enfer, ils vont tomber à genoux, ils vont demander à Allah protection. C'est-à-dire même les Anbiya auront peur lorsqu'ils vont voir le Jahannam. Et donc, devant la balance, on sera à la recherche de la moindre bonne action qui va faire pencher la balance du bon côté pour éviter l'enfer et pour accéder au paradis. Et lorsqu'on va voir que personne n'est en mesure de nous aider, l'être humain va regretter. Va regretter si seulement de ce dunya, j'avais passé plus de temps dans les bonnes actions. Il aurait peut-être suffi d'un namaz en plus. Il aurait peut-être suffi que tel jour, en mai 1980, en mai 2011, etc., n'importe quel, il va se souvenir qu'à ce moment-là, j'avais la possibilité d'aller à la masjid, mais j'ai préféré rester chez moi. J'avais la possibilité de rester un peu plus longtemps dans le doua après la salat, mais je me suis levé trop tôt parce que j'avais faim. Je voulais rentrer à la maison manger, il était dimanche, c'était un dimanche, il était midi. Ou alors j'avais la possibilité de lire un peu le Coran après la salat al-fajr, mais comme c'était dimanche, je me suis dit que je vais dormir. Je dis que c'est cette action-là qui me manque. C'est ce moment de ibadah qui me manque, qui aurait pu peser dans ma balance. C'est-à-dire l'être humain va regretter amèrement les occasions qu'il a laissées passer sur ce dunya. Mais maintenant, mes chers frères et sœurs, imaginez ce qu'on vient de dire, comment les récompenses sont multipliées durant ce mois. Imaginez qu'avec un raka'a, on a 1000 raka'at. Mais comment les actions du Ramadan auront leur importance dans la balance au jour des comptes? Ce musulman qui, durant ce mois, tous les soirs, se réveille pour le qiyam ul-layl, pour le tahajjud, avant de faire le suhur, il fait 2 raka'at, 4 raka'at, 6, 8, 10, jusqu'à 12 raka'at. Imaginez le nombre de hasanat, le nombre de récompenses qu'il est en train de cumuler. Et tout ça, il va les retrouver, incha'Allah, cache dans sa balance. Imaginez le poids que ces actions auront dans la balance. Imaginez quelqu'un qui, allez, on va rester dans le juste milieu, entre 2 et 12, c'est le nombre de rakat de tahajjud. Si quelqu'un fait ne serait-ce 6 rakat quand il se réveille le matin avant de manger, pendant 30 jours, ça fait 6 fois 30, ça fait combien? 180 rakat. Et multiplié par 1000, ça fait 180 000 rakat en un mois. Chose qu'un être humain ne peut pas accomplir durant toute sa vie. 180 000 rakat en 10 ans, ça le fait 1 800 000, on va continuer avec des chiffres, on n'en finira plus. 1 800 000 pendant 10 ans, et on fait en général 50 ramadan dans une vie, multiplié 1 800 000 par 5. Bref, vous comprenez que celui qui s'est appliqué, qui a fait un effort, Allah attend de nous un geste, une preuve qu'on veut se rapprocher de lui. Celui qui, pendant tous les ramadans de sa vie, a su faire cet effort, par exemple, uniquement pour le qiyam ul-layl, cette personne-là aura des montagnes indescriptibles. On ne peut même pas utiliser une métaphore des montagnes ou des masses. Une quantité extraordinaire de hasanat, millions de millions de millions de bonnes actions dans son livret de compte, dans sa balance au jour des comptes, parce qu'il a consacré 10 minutes en plus. Il s'est réveillé 10 minutes plus tôt pour faire quelques unités de prière dans la nuit. Et maintenant, quelqu'un qui fait le shuruq tous les jours, et dans Ramadan, il ne rate pas un ishraq, la prière qu'on fait après le lever du soleil, et qui après chaque salat fait des nawafil, imaginez quelle quantité de hasanat il va cumuler durant ce mois de Ramadan. Donc, dans cette deuxième thématique, deuxième ni'ma qu'on a dit durant le mois de Ramadan, il y a la possibilité de cumuler des récompenses massives, augmenter le bilan de bonnes actions. Ça, c'est exceptionnel. Et ça, il faut savoir en profiter. Le prophète, autre action, mais là, c'est spécifique à ce mois, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, man salla, ça c'est plus adapté, plus pour les messieurs, man salla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu baqiyatu laylati. Ce musulman qui vient à la mosquée pour la prière de la nuit, pour la prière de Tarawih, pardon, et qui reste jusqu'à la fin. La totalité des prières accomplies par l'imam, jusqu'à son dernier salam, Allah Ta'ala lui accorde en récompense la nuit passée dans l'ibad. Allah Ta'ala lui accorde la récompense de l'intégralité de la nuit dans l'adoration. Même si en rentrant chez lui à 9h30, il est parti direct au lit, jusqu'à le lendemain pour faire son suhoud, il n'a pas fait un ibadah la nuit, mais Allah Ta'ala lui accorde la nuit de hasanat, la nuit de récompense, parce qu'il est resté avec l'imam, il a fait sa prière de salat al-tarawih, chose qui est propre au mois de Ramadan. Et il y a une citation de Abu Bakr ibn Abi Maryam tabi'in, il dit que tasbihatun fihi afdalu min alf tasbihatin fi ghayri. Quand un mu'min fait un tasbih, il dit subhanallah ou alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, n'importe quel tasbih il fait durant ce mois, ce tasbih-là vaut 1000 tasbihs des autres mois de l'année. Un subhanallah, là j'en ai dit deux déjà, alhamdulillah, ça me fait 2000. Si j'en dis un troisième, ça me fera 3000. Subhanallah, ça vaut 1000 tasbihs que je fais durant n'importe quel moment de l'année. Mais quel inconscient ce musulman qui ne profite pas de ce mois? Vous voyez le nombre de trésors qu'il y a en dehors du jeûne. Le somme, c'est quelque chose. Il n'y a rien à dire. Mais comme je dis, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de plus à dire non plus, parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'Allah va donner, c'est énorme. Ça dépasse toutes les récompenses qu'on est en train de citer là. Là, on est en train de parler des petites actions, des petits détails du Ramadan. Et le jeûne lui-même, Allah seul le récompense. Allah seul en connaît la récompense. Mais là, on est en train de parler de tous les à côté du Ramadan, pour qu'on prenne conscience, mes chères sœurs et mes chers frères, que le Ramadan, ce n'est pas 30 jours ou 29 jours. Le Ramadan, on doit le compter en secondes. Je n'ai pas le temps de compter. 24 heures par jour, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Je ne sais pas en finalité, ça fait combien de secondes en un mois. Mais le Ramadan, on ne doit pas le compter en jours, mais en secondes. Parce que chaque seconde du Ramadan est un trésor, est un cadeau de la part d'Allah. Alors on essaie de meubler notre temps au mieux, mes chers sœurs, mes chers frères. Au mieux, on ne doit pas rester, on doit faire au maximum, pour ne pas rester une seconde inattentif, sauf quand on dort. Mais même quand on dort, il y a un hadith qui dit que le sommeil du jeûneur lui apporte aussi des récompenses extraordinaires. Ça. Quand je vais dormir, je vais avoir des récompenses aussi. Parce que quand un jeûneur dort très souvent, c'est qu'il est fatigué par rapport à son jeûne, ou qu'il a besoin de reprendre des forces. Ce sommeil-là aussi, Allah Ta'ala va le considérer comme un acte d'adoration. C'est énorme le Ramadan, mes chers frères et sœurs. C'est énorme, il n'y a pas une seconde qui passe sans qu'on peut se rapprocher d'Allah. Et quand on ne dort pas, on essaie de meubler notre temps par les ibad. Aujourd'hui dimanche, on peut le faire. On est dans un majlis, on parle du dîn d'Allah, on a des récompenses. Mais après, on peut faire la salat, on peut faire notre lecture du Coran, il n'y a rien à dire. Mais on peut se dire, oui, mais en dehors, c'est facile de dire meubler le temps, mais si je travaille, je suis au bureau, ou je suis à l'école, je suis à l'université, je suis au lycée, etc. Dans n'importe quel laps de temps libre, on peut faire l'adoration d'Allah par le dhikr, le tasbih. Il n'y a pas besoin d'être en état de pureté, il n'y a pas besoin d'avoir des vêtements spécifiques, il n'y a pas besoin d'être dans une mosquée ou d'être sur un musallin, sajjada, on lit subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, on lit le tahli, la ilaha illallah, muhammadur rasul, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. On essaie de meubler notre temps par les azkar. Même quand on est en voiture, on est dans un embouteillage, au lieu d'écouter Radio Freedom, on fait le dhikrullah. Quand on est dans le bus, au lieu de regarder partout, au lieu d'écouter la musique qu'on est en train de diffuser dans le bus, on essaie de se concentrer, on fait le dhikrullah. Quand on est même allé, on va faire ses courses en grande surface, on est à la caisse, il y a du monde, on attend. On ne reste pas bêtement comme ça, on essaie de meubler ce temps-là par des tasbihan. Parce que le jour des comptes, on va, c'est uniquement là-haut qu'on va se rendre compte que ces tasbihat du Ramadan avaient une valeur exceptionnelle. Donc ça c'était le deuxième point concernant les grandes ouvertures qu'il y a de ce mois. La première des grandes ouvertures, c'est tous les bienfaits généraux du premier jusqu'au dernier jour. La deuxième grande ouverture, le deuxième grand ni'ama, c'est les cumuls de récompenses qu'on peut faire durant ce mois. La troisième chose, c'est al-isma, comme on a dit tout à l'heure, c'est la protection contre tous les facteurs qui nous mènent vers les péchés. Et comme on a dit en introduction, il y a deux choses qui poussent l'être humain à accomplir des péchés. Il y a Shaitan, bien sûr, il a été créé pour ça de toute façon. Shaitan, lorsqu'il a été chassé du paradis, lorsqu'il a désobéi à Allah en refusant de se prosterner devant Adam a.s., quand il a été chassé, il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un délai. Et Allah Ta'ala lui a accordé un délai. C'est-à-dire que Shaitan ne meurt pas. Contrairement aux autres makhloukat, Shaitan a cette particularité qu'il a eu une espérance de vie supérieure à tout le monde. Shaitan, depuis qu'il a été chassé du paradis, il reste vivant jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompe, ce qu'on souffle dans As-Sour, qu'on appelle communément en français, qu'on souffrira de la trompette le jour des comptes. Jusqu'à là, Shaitan va rester vivant. Il a eu donc ce qu'il voulait, le délai. Et dans ce délai, il s'est fait une promesse. C'est quoi la promesse ? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Il s'est fait la promesse d'induire en erreur le maximum de personnes. Shaitan s'est fait la promesse d'amener un maximum de personnes avec lui, où ça ? Dans l'enfer. Que Shaitan, lorsqu'il a désobéi à Allah, il sait que sa destination finale, c'est le Jahannam. Il sait. Mais lui, il aimerait ne pas être seul. Il aimerait que dans l'enfer, il amène un maximum de personnes, d'êtres humains. Parce que lui, il a refusé de se prosterner devant le premier homme, ordre d'Allah. Il aimerait que tout, et à cause de ce premier homme, il était chassé du paradis. Il aimerait donc amener avec lui toute la race humaine de le Jahannam. Ça, c'est sa mission. Et Shaitan a différentes... Il y a différentes approches, il y a différents moyens pour induire l'être humain en erreur. Et dans le mois de Ramadan, on a cette chance, cette opportunité que c'est le seul mois de l'année où Shaitan ne peut rien faire. Shaitan ne peut rien faire à l'homme, à l'être humain, parce que durant ce mois, notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a annoncé وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ, que les shayatines sont enchaînés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus avoir l'influence sur l'être humain comme ils le faisaient durant les 11 autres mois de l'année. Et le deuxième facteur, on va être un peu plus rapide pour terminer à temps, le deuxième facteur qui normalement pousse l'être humain à accomplir des péchés, c'est le nafs. Mais le nafs, il reste avec nous, ça. Ce qui fait qu'il y a des gens, même dans le Ramadan, parfois ils font des petites bêtises, des petites, pas des grandes. Ils se disent, oui, mais comment ça se fait que je fais des péchés ? Shaitan est enchaîné et je continue à faire des petits péchés. Parce qu'il y a autre chose, il y a le nafs, inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Qu'en général, l'ego, le nafs, pousse l'être humain à accomplir des péchés. Mais là aussi, le nafs, durant ce mois, est affaibli. De quelle façon ? Par le biais du jeûne. Quand une personne est en état de jeûne, il est en train de dompter son nafs. Le nafs, c'est simple. Soit c'est vous qui le contrôlez, soit c'est lui qui vous contrôle. Si c'est lui qui vous contrôle, vous êtes mort. Il vous fera faire ce qu'il voudra. Il veut manger quelque chose, halal, pas halal, il va vous dire, prends, je t'y mange. Il veut que vous fréquentiez telle personne, il va vous faire fréquenter telle personne. Il veut que vous écoutiez telle musique, telle chose, vous allez écouter parce que cet être humain, malheureusement, a pris l'habitude d'écouter son intérieur, d'écouter son ego, d'écouter son nafs. Mais si quelqu'un prend l'habitude de maîtriser son nafs, alors le nafs n'aura plus d'emprise sur lui. Et comment maîtriser le nafs ? en le désobéissant. Quand le nafs nous demande de faire quelque chose, on montre à notre ego, on lutte contre ses pulsions, on appelle ça. On va à la lutte contre ses shahawas, ses envies, et de la sorte, le nafs se verra affaiblir. À chaque fois que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, ce que instinctivement vous aimerez faire, qui vous procurerait un plaisir, vous affaiblissez votre nafs. Et donc, il aura moins d'emprise sur vous. Et dans le mois de Ramadan, justement, le fait qu'on est en état de jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, le nafs se retrouve diminué, affaibli. Ce qui fait que le deuxième grand facteur qui pousse l'homme à accomplir des péchés, également, il est en train de disparaître peu à peu, il est en train de s'affaiblir. Ce qui fait que il reste que la bonne volonté de l'être humain. Il reste que la bonne volonté de l'homme. Et donc, l'occasion est unique. En même temps, Allah ouvre en grand les portes du paradis et accorde massivement des hasanats. Et en même temps, Allah Ta'ala enlève les obstacles entre nous et lui. Shaitan qui nous pousse à faire le mal et le nafs qui nous empêche de faire de bonnes choses. Donc, c'est vraiment une opportunité unique durant toute l'année. Tout ça, ce sont les trésors du Ramadan. Et troisième et dernier point, Allah Ta'ala nous donne la possibilité de faire notre propre correction. Ça, c'est extrêmement important. L'éducation spirituelle. Durant ce mois, il y a des actes d'adoration qui permet à l'homme de se mettre en phase avec les ordres d'Allah, qui permet à l'homme d'éduquer son nafs, bien sûr, mais de s'éduquer et de se donner les bonnes habitudes pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les ibadas, le culte, on citera que l'exemple de la salat du tarawih. Quand quelqu'un fait la salat du tarawih, qui est une prière qui est longue, qui est difficile, qui comporte beaucoup d'unités de prière, le musulman, lorsqu'il fait le tarawih, il est en train également d'éduquer son âme, d'éduquer son corps à prendre l'habitude d'obéir à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que ce musulman qui est fatigué après 2, 4, 6, 8 raka'at, il commence à avoir des crampes dans les jambes, il commence à avoir les pieds qui font un peu mal, avoir un peu mal au dos, mais il aimerait intérieurement dire, bon, allons, arrête avec ça, on rentre à casa, on allonge un bon coup. Non, il reste ferme dans sa prière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer à son nafs et montrer à son corps également que non, Allah m'a demandé de compléter mes unités de prière, je vais les compléter. Il éduque son âme à rester de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est dans le culte, dans les actes d'adoration. Dans le akhlaq, dans le comportement, le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé, nous a ordonné même que فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ. Si quelqu'un vous insulte, c'est ce qu'on avait expliqué avant-hier ici, si quelqu'un durant le ramadan vous insulte ou vous provoque, on n'est pas en droit de répondre à la provocation. La seule chose qu'on a le droit de dire, c'est فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ. Je suis en état de jeûne. Ça veut dire, même si vous êtes dans votre droit, vous ne répondez pas. Et vous dites à la personne que là, je suis en jeûne. Et quand je suis en état de jeûne dans le ramadan, je ne réponds à aucune provocation. Je dois être le plus zen, le plus cool possible. Et de la sorte, le mu'min apprend à contrôler également sa colère. Apprend à contrôler ses sauts d'humeur. Très souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de sauts d'humeur ou de colère dans les autres mois de l'année. Hein, la personne est colérique, il s'énerve facilement, même à la maison. Il y a un petit problème à la maison avec madame, avec le foyer, avec, je ne sais pas, des trucs bêtes, hein, la préparation du repas, ou, etc. Le mari s'énerve, ouais, c'est pas normal, c'est quoi, c'est du n'importe quoi qu'on fait toute la journée. Et ainsi de suite. L'épouse, s'il y a un petit souci, le mari n'a pas pu faire les courses, ou n'a pas pu monter les courses, ou n'a pas acheté ce qu'il devait acheter, elle s'énerve, etc. Voilà, dans les relations de travail aussi, on s'énerve avec nos employés, avec nos collègues. D'une manière générale, la colère c'est quelque chose de mauvais. Et c'est quelque chose en même temps d'instinctif. Mais c'est quelque chose qui vient également de Shaytan. Mais durant ce mois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de contrôler notre colère. Et si pendant un mois, on ne s'est pas mis en colère, c'est-à-dire que dans les autres mois de l'année, Inch'Allah, on va essayer de garder la bonne habitude. Si 30 jours, j'ai réussi à rester calme, au 31e jour, c'est pas au 31e jour que je vais exploser de colère, non. C'est que mon corps va s'habituer, mon nafs, mon intérieur va trouver une certaine stabilité. Donc le ramadan, en plus des bonnes actions, c'est également une éducation pour l'âme par rapport aux hasanat, aux bonnes actions. et également par rapport au comportement, par rapport au akhlaq. Également, c'est l'occasion de se rapprocher des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque un musulman donne à manger un jeûneur, donne la possibilité à un jeûneur de rompre son jeûne, que ce soit avec une date, une gorgée d'eau ou un peu de lait ou n'importe quoi, Allah Ta'ala lui accorde la récompense égale au jeûne de la personne qu'on a aidée. Et Ibn Umar radiallahu anhuma, il avait l'habitude, yasoumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Ibn Umar avait l'habitude de rester avec les pauvres durant tout le mois de Ramadan. Et il rompait le jeûne avec eux également. Le Ramadan, c'est l'occasion également de se rapprocher des gens, de faire notre propre correction, de casser notre orgueil et de fréquenter tout le monde et d'être le plus proche possible des gens, d'apprendre la simplicité. Donc on a vu à travers ces quatre points quels sont les trésors qu'il y a dans ce mois. Premièrement, les vertus générales depuis le premier jour jusqu'au dernier jour pour toute la Ummah. Deuxièmement, la possibilité de cumuler beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions, par des actions qu'on fait tout le temps ou alors des actions qui sont spécifiques au mois de Ramadan. Troisièmement, le troisième trésor, l'immunité, la protection contre Shaitan et le Nafs. Et quatrièmement, ce qu'on vient de dire, la possibilité de s'éduquer, la possibilité d'éduquer notre âme et d'éduquer notre corps à obéir à Allah, à rester éloigné de ce qui est interdit. Parce qu'en plus, comme on a dit tout à l'heure, dans les bonnes actions, rester ferme dans la prière, etc. En plus, quand on a faim, quand on a soif, on ne le fait pas. Donc, on apprend notre âme également à résister aux tentations. Quand Allah a décrété qu'on ne fait pas quelque chose, je ne le fais pas et je respecte ça. Donc c'est une éducation pour l'âme. Et quand on voit tous ces trésors, tous ces bienfaits, là on se rappelle les deux conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un tarhib et il y a un tarhib. Tarhib c'est quoi? C'est une annonce, l'annonce d'une bonne nouvelle. Et tarhib c'est une mise en garde. Après avoir annoncé aux sahaba tout ce qu'il y a de le Ramadan, le prophète m'a dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسَكُمْ خَيْرًا. Le prophète a exhorté les compagnons à faire le maximum de bonnes actions. Et la mise en garde, c'est lorsque le prophète dit aux sahaba فَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Le plus malheureux des hommes, le plus malheureux des hommes, répété deux fois, c'est celui qui durant ce mois se voit privé de la bénédiction de la rahmat d'Allah, de la clémence, de la pitié d'Allah. Et en fait, celui qui se voit privé de la clémence d'Allah, c'est une personne qui se prive lui-même de la clémence d'Allah. C'est-à-dire que c'est ce musulman qui va laisser passer ce mois comme n'importe quel mois de l'année. Et ça, ce serait une catastrophe. La catastrophe, ce serait quoi? Ce serait de vivre ce mois comme tout le temps, de ne faire aucun effort dans les bonnes actions, de ne rien changer à nos habitudes. Ça, ce serait terrible. De ne pas augmenter nos quotas de prière, de ne pas augmenter nos quotas de dhikrullah, de ne pas augmenter nos quotas de tilawatul Qur'an, de lecture du Qur'an. Ça, ce serait la catastrophe. La catastrophe, ce serait également de ne pas faire des efforts face au péché, de ne pas essayer de remédier à nos erreurs. Si quelqu'un, en dehors du mois de Ramadan, avait l'habitude, malheureusement, on citera un seul exemple, hein, de regarder tout et n'importe quoi. Dans la rue, s'il y a une jolie fille, regarde une jolie fille. Et si c'est pour une dame, s'il y a un beau jeune homme qui passe, il regarde dans le bus ou au lycée, etc. Et que durant ce mois, il ne fait aucun effort, ou elle ne fait aucun effort. Continue à faire les mêmes erreurs, ça c'est une catastrophe. Parce qu'il n'a pas considéré à sa juste valeur le mois de Ramadan. Il n'a pas essayé de faire un effort dans les bonnes actions, ni fait un effort par rapport au péché. Et le prophète m'avait dit une fois, autre mise en garde, une fois il montait sur le mimbar, il a dit Amin trois fois. Les sahaba ont demandé au prophète d'Allah quelle est la signification de ce Amin. Le prophète m'a expliqué que l'ange Jibril est venu et il a fait trois doigts. Et j'ai dit Amin pour ces trois invocations. Parmi ces invocations, c'était une mise en garde, une malédiction contre ce musulman qui laisse passer ce mois sans rechercher le contentement d'Allah. C'est ce musulman qui n'a fait aucun effort durant ce mois. Et là, le prophète a dit Amin. Alors imaginez, dans la mosquée Nabawi, dans la masjid du prophète, c'est-à-dire un des meilleurs endroits du monde, le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, il fait un doua, et le meilleur des hommes dit Amin, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, assurément, c'est une condamnation sans équivoque contre la personne qui laisse passer ce mois dans al-rafla, dans l'insouciance qui ne va pas faire un effort durant ce mois. Donc on doit bien comprendre, mes chères sœurs et mes chers frères, qu'on doit faire le maximum d'efforts. On doit considérer chaque seconde de ce Ramadan et essayer de profiter au mieux et d'avancer au mieux durant ce mois béni, durant ce mois de Ramadan. Et pour conclure, on va donner un conseil. Un conseil, et avant tout, donner, décrire le jeûneur intelligent. Parce qu'on aime bien nous donner cet exemple, le jeûneur traditionnel et le jeûneur intelligent. Pareil pour toutes les actions. Le musulman qui fait sa prière de manière traditionnelle, comme une routine, comme un héritage culturel, ou comme une obligation tout simplement, ou parfois même comme une routine ou un fardeau. Et de l'autre côté, il y a le musulman qui fait sa salat de manière intelligente. Il sait exactement pourquoi il l'accomplit, comment il doit le faire, avec quelle intention, quelle dévotion, qui est devant lui quand il prie, et qu'est-ce qu'Allah lui accorde. Il est conscient que quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah Ta'ala répond Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, que c'est une conversation entre lui et Allah quand je fais ma prière. Donc quand il prend conscience de ça, qu'il va faire sa salat, il va pas aller mâcher les mots, faire vite pour terminer vite sa prière. Non, il va pas faire comme le prophète m'avait dit, le pire des voleurs c'est celui qui vole dans la prière, qui fait vite ses rakat, qui les enchaîne, qui donne pas le temps qu'il faut à chaque geste. Non, parce qu'il va comprendre, il va prendre conscience de l'importance de chaque geste, chaque parole de la salat. Et il sait qu'il est devant son Créateur. Ça, c'est le musulman intelligent dans la prière. Et ainsi de suite, dans tous les actes d'adoration, il y a une manière d'accomplir. Soit on a pris conscience de ça, soit on n'a pas pris conscience. Si on n'a pas pris conscience, on va passer à côté. On va le faire. Le devoir est accompli, mais le fruit, on ne l'obtiendra pas. Les récompenses pour l'adoration, oui, on l'aura certainement. Mais le résultat sur la spiritualité de l'homme, on ne l'aura pas. Le but final de la salat, c'est quoi ? Inna salata tanha anil munkar. Le but final recherché par la prière, c'est que la prière nous éloigne de l'interdit, de toute source de turpitude, du blâmable. Quand un mu'min fait vraiment son salat, il ne fait plus de péché. Mais une vraie salat, comme on a dit, avec concentration, dévotion, il sait qu'il est devant Allah. Une vraie salat, c'est celui qui, on ne sait pas le but de l'intervention, mais une vraie salat, c'est celui qui sait contrôler ses paroles dans la prière, ses gestes, son regard et ses pensées. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde le fait dans la salat. Il n'y a pas quelqu'un qui, durant sa salat, t'appelle un texto, ou envoie un tweet, ou actualise son statut Facebook dans la salat. On ne le fait pas. Si on fait un nombre de gestes, c'est un nombre de gestes, la prière est annulée. Il n'y a pas quelqu'un qui, durant sa salat, visionne une vidéo Dailymotion sur son portable ou regarde quelqu'un passer. Non. Parce que si on ne contrôle pas le regard, aussi la salat ne compte pas. Il n'y a pas une personne qui, durant sa salat, parle, passe un coup de fil ou parle avec quelqu'un au téléphone. Non. Parce que si on a prononcé quelque chose en dehors de la salat, quelque chose, une parole qui n'est pas en rapport avec les prières, la salat est annulée. Donc, ça, on a intégré ça. Tout le monde est conscient et tout le monde le met en pratique. Contrôler ses paroles, contrôler ses gestes, contrôler son regard, et puis idéalement contrôler l'esprit, la concentration. Mais le musulman intelligent, le musalli intelligent, c'est celui qui a compris que le but de la salat, c'est de l'éduquer. Quand on est devant Allah pendant 5 minutes, 10 minutes, ce n'est pas qu'un acte d'adoration, c'est également une éducation. Permettre à l'homme de contrôler tout ça, afin que lorsqu'il a terminé sa salat, il garde ses bonnes habitudes. Que dans la vie de tous les jours, je contrôle mes paroles. Je dis que ce qui est nécessaire. Dans la vie de tous les jours, je fais attention à mes gestes. Dans la vie de tous les jours, je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que je pense. C'est-à-dire arriver à se contrôler entièrement. Ça, c'est un des objectifs de la prière. Alors comprenez que celui qui arrive à mettre ça en pratique, dans la vie de tous les jours, assurément, ne fera plus de péché. Et donc, il va obtenir le fruit de la prière. Vous voyez le cheminement vers l'objectif final de la prière. Différence entre celui qui arrive à cet objectif et celui qui fait sa salat vitement et qui rentre chez lui et qui aura certes accompli son devoir, mais qui n'obtiendra pas les fruits et le résultat spirituel de la prière. Et comme on l'a dit, ainsi de suite pour tous les actes d'adoration. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit. Et pour le jeûne du Ramadan aussi,
pour le jeûne du Ramadan, le mu'min, le musulman, doit comprendre que c'est une école. Le Ramadan est une école où on apprend à éduquer notre âme, comme on a dit tout à l'heure. Ce musulman intelligent, contrairement au jeûneur traditionnel qui après le Ramadan va retrouver ses mauvaises habitudes, et celui qui se réveillait tous les matins tôt pour le suhur, il faisait alhamdoulilah 2 rak'at de salat, et qui après le Ramadan il recommence à rater ses fajr, ça c'est un jeûneur qui n'a rien compris. Mais le jeûneur intelligent, c'est celui qui a compris que toutes les actions qu'on est en train d'accomplir, le but n'est pas uniquement de se donner à fond durant 30 jours, non. Le but c'est de le faire, certes, d'avoir les récompenses, certes, mais également d'éduquer mon âme, de me donner les bonnes habitudes pour continuer à accomplir ces bonnes actions toute l'année avec istiqama. Parce que ça c'est l'action la plus aimée par Allah quand on l'accomplit avec istiqama, avec fermeté et avec constance. Et comme on a dit, il y a des gens qui vont faire le Ramadan, mais ils ne vont pas se rapprocher correctement d'Allah. Ils vont faire toutes les bonnes actions. Il est possible qu'un jeûneur fasse tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Les prières de la nuit, le dhikrullah, le tasbih, le Qur'an, mais il n'arrive pas encore à décoller spirituellement. Parce qu'il a peut-être oublié quelque chose. Il a peut-être oublié qu'on ne se rapproche pas d'Allah uniquement avec les bonnes actions. On se rapproche d'Allah avec les bonnes actions, mais également en s'éloignant des péchés. Tant que je n'ai pas abandonné mes mauvaises habitudes, je n'ai pas arrêté mes péchés, je ne vais jamais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que malheureusement il y a des gens qui auront de leur jeûne uniquement la fatigue, la faim et la soif. Les personnes qui n'ont pas réalisé que si j'arrête pas les péchés, j'aurai pas grand chose de mon jeûne. Par exemple, il y a un hadith que ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث, que le jeûne, le carême, c'est pas uniquement s'abstenir de manger, de boire. Le jeûne c'est aussi s'abstenir de tout ce qui est mauvais, de tous les péchés. Pour ça, on dit un hadith que لم يدع, celui qui n'abandonne pas les mauvaises choses, فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه, hadith de Bukhari, celui qui n'abandonne pas les péchés, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'un musulman ne mange pas, ne boit pas, si en même temps il n'arrête pas ce qu'il fait de mal. C'est-à-dire que qu'on comprenne bien que pour que notre jeûne soit accepté, parce qu'on doit rechercher avant tout l'acceptation d'Allah. C'est pour ça qu'après les actions, on demande Rabbana, taqabbal minna, wa Allah accepte ce qu'on a fait. Et pour qu'Allah accepte le jeûne, il faut faire ce qui a été demandé, mais également immédiatement arrêter le haram, s'arrêter, arrêter d'accomplir les péchés, autrement le jeûne n'aura pas l'ampleur qu'il devrait avoir et on ne va pas s'approcher d'Allah correctement. Et vous savez, petite parenthèse, Allah est tellement content quand un musulman abandonne un péché. Quand quelqu'un a le choix de faire une bonne action ou une mauvaise action et qu'il choisit la bonne action, ou qu'un musulman a la possibilité de faire un péché sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, mais le musulman ne le fait pas, Allah Ta'ala est tellement content qu'Allah Ta'ala lui accorde un grand cadeau. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu, celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala lui accorde quelque chose de mieux. Allah Ta'ala lui accorde un cadeau inestimable que les sahaba eux l'avaient. C'est un cadeau pour sa foi. Allah Ta'ala lui accorde un tel degré de foi qu'il va trouver le plaisir dans les bonnes actions, que quand il va faire l'adoration d'Allah, il va trouver une tranquillité du cœur. C'est-à-dire que le musulman deviendra addict aux bonnes actions. Et ça c'est merveilleux ça, que dans ma vie la chose qui compte le plus, c'est pas de bien manger, de bien boire ou d'avoir le confort, non. La chose qui me sera le plus cher, ce sera les sujoud, les prosternations, le tahajjud, que j'attends avec impatience la nuit pour me réveiller pour le tahajjud. Vous allez dire qu'à notre époque, il y a encore des gens comme ça? Très peu. Les sahaba, eux, ils étaient tous comme ça. Ils pouvaient passer une nuit entière de l'ibadah, de le tahajjud, parce que pour eux, les bonnes actions, c'était le plus beau des trésors. Et ils éprouvaient un plaisir, comme nous, nous éprouvons des plaisirs dans les choses de ce monde. Mais celui qui délaisse régulièrement le haram pour Allah, Allah Ta'ala va lui accorder peu à peu cette qualité. Donc, le jeûneur intelligent, c'est celui qui a compris, celui qui a compris que le Ramadan est avant tout une école, une éducation pour lui. Et donc, C'est la première chose. Et ce jeûneur intelligent, c'est celui qui, deuxièmement, aura compris que si je n'abandonne pas les péchés, je ne vais pas me rapprocher d'Allah. Donc deux choses. Il comprend que les bonnes actions qu'il fait, il doit les faire avec constance. Fait le niya de les faire tout le temps. Et demander régulièrement à Allah de nous aider à rester ferme dans les bonnes actions. Et deuxièmement, il abandonne les péchés. Parce qu'il a compris que sinon il ne va pas avancer. Et en même temps qu'il abandonne les péchés, il demande, en même temps qu'il essaie d'abandonner les péchés, il demande régulièrement dua à Allah de l'aider. Vous savez, on avait dit tout à l'heure, on n'avait peut-être pas dit, que lorsqu'on rompt le jeûne, il y a au moins un doigt qui est accepté par Allah. Donc on doit demander, parmi les doigts qu'on demande, la réussite dans ce monde, dans l'au-delà, nos études, notre vie professionnelle, qu'on puisse se marier, qu'on puisse avoir des enfants, qu'on soit heureux. Bref, tout ça on doit demander à Allah. Mais en plus de ça, on doit demander, oh Allah, accorde-moi la possibilité durant ce mois de Ramadan de faire un maximum de bonnes actions. Parce que le tawfiq, qui le donne? C'est Allah qui donne le tawfiq. C'est Allah qui choisit qui il veut pour faire son acte d'adoration, pour faire son ibadah. Également demander à Allah, oh Allah, aidez-moi à abandonner les péchés. Et de spécifier nos erreurs. Parce que d'un être humain à l'autre, on accomplit des péchés différents. Il y en a qui seront plus tentés vers des choses haram. Quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool, ou de consommer du zamal, si on est jeune. Ou quelqu'un peut-être plus tenté vers le zina. Quelqu'un peut-être plus tenté vers les pratiques illicites, l'intérêt ou la triche, l'argent, etc. Ou quelqu'un, bref, d'une personne à l'autre, les péchés varient. Et donc, on doit spécifier nos péchés. Quand on demande droit au moment de rompre le jeûne, dire, oh Allah, vous savez que toute l'année, je fais tel péché. J'ai l'habitude de consommer du zamal, par exemple. Ou j'ai l'habitude de sortir avec une fille. Ou j'ai l'habitude de regarder des choses interdites à la télé ou sur mon portable. Quand personne ne me voit, je suis dans ma chambre le soir, papa, maman, ils dorment, je suis sous ma couette, j'ai ma connexion 3G, et là, je regarde ce qui m'est interdit. Oh Allah, vous êtes le seul qui connaît ça. Parce que personne d'autre à part Allah le sait. Oh Allah, aidez-moi, donnez-moi la force d'arrêter. Il faut demander. Il y a des gens qui se disent que oui, je fais des péchés, mais je ne peux pas arrêter. Mais est-ce que tu as essayé de t'arrêter? Est-ce que tu as déjà demandé à Allah de l'aide pour avoir la force spirituelle pour lutter contre les péchés? Donc, demandez à Allah de nous aider à abandonner le péché et demandez à Allah de nous aider à abandonner ce péché durant ce mois, mais également durant toute l'année. Et ça, c'est extrêmement important. On doit orienter le doigt dans ce sens. Par rapport aux bonnes actions, demandez à Allah de nous aider à faire beaucoup de bonnes actions dans ce mois et de nous donner le tawfiq de le faire avec constance toute l'année. Oh Allah, accordez-moi la force d'abandonner tel péché durant ce mois et également de ne plus jamais y retourner, même après le mois de Ramadan. Ça, c'est vraiment le jeûneur intelligent. Il y a des gens qui font doigt et Rabbana Atina Fidina, c'est bien. Mais ça, parfois, il demande des doigts qu'il ne comprend pas lui-même. Le jeûneur intelligent, il demande des doigts à Masnoun, du Coran et de la Sunna, bien sûr. Mais en plus, quand on demande doigts, c'est notre cœur qui doit parler. C'est le cœur qui parle. C'est ce qu'il y a de le cœur qu'on doit vraiment demander à notre Créateur, le seul qui peut réaliser, accepter nos invocations. Donc ça, c'est le jeûneur intelligent. Et le jeûneur intelligent, également, dernier point, c'est celui qui analyse sa vie durant le Ramadan et sa vie en dehors. Il doit se rendre compte, il doit dire, écoutez un couva, là, dans le mois de Ramadan, tous les matins, je viens à la mosquée pour Fajr. Ou alors, si c'est une dame, tous les matins, je fais la salat ou le Fajr. Et durant les autres mois de l'année, je ne fais jamais. Si là, je suis réveillé, c'est que humainement, je peux le faire. C'est que c'est pas quelque chose d'inaccessible. Ben, si là je peux faire durant un mois, ben je peux également le faire durant toute l'année. C'est celui qui cogite, qui réfléchit, dit ben, le fajr que je fais en ce moment-là, il est obligatoire. Pas que le Ramadan, toute l'année. Ben, si là je prends conscience, je le fais, ben, il faudrait que j'apprenne à le faire toute l'année aussi. C'est-à-dire qu'il essaie d'avancer, il essaie de réfléchir. Cette personne qui durant le Ramadan, les samedis soirs, ce jeûne, il ne va plus en boîte de nuit. Il se dit que je respecte le mois, je n'y vais pas. Parce que Allah Ta'ala n'est pas content. Mais il réfléchit. Il doit dire que oui, mais si Allah n'est pas content de telle chose, la musique, l'alcool, fréquentation des filles, tel endroit, la danse durant le Ramadan, mais c'est toute l'année comme ça. Mais pourquoi est-ce que là je ne fais pas? Et quand il définit, je prends déjà rendez-vous pour y retourner. Non, il y a un problème là. Je dois être sincère envers Allah, je ne peux pas être hypocrite. Donc ce musulman intelligent, c'est celui qui prend du temps et réfléchit. Il réfléchit. Il essaie d'analyser comment je vis là maintenant. Et quelle est la tranquillité de mon cœur durant ce mois? Et comment je vis les autres mois de l'année? Et bien comprendre que, mais en finalité, je retourne auprès d'Allah. Et Allah va me juger sur quoi? Sur mes 50 Ramadan de ma vie? Ou sur tous les jours de ma vie? Dit que Allah ne me juge pas que un mois sur 12. Allah va me juger les 12 mois sur 12. Donc ça, mes chers frères et sœurs, c'est un jeûneur intelligent. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons, prenons conscience qu'on a un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et le mois de Ramadan, c'est le moment propice pour réfléchir à tout ça et d'avancer. Alors, dernier conseil, on demanderait à chacun, je voulais imprimer un papier à la maison, amener, j'ai pas eu le temps. On demanderait à chaque personne de faire un petit travail à la maison. Hein, ça, c'est le devoir à faire à la maison. Mais la copie, on ne rend personne. Ça, c'est entre nous et Allah. Ni à Moulissab, ni à Fundi, ni à personne. C'est entre nous et Allah. Prenez une feuille chez vous et faites un listing, soit à la main, soit si vous avez un ordinateur. Prenez un fichier Word, tapez un numéroté. Faites un listing de vos péchés. Et comme on a dit, ça c'est personnel, hein, entre nous et Allah. C'est pas on vient demander, on va donner à Moulissab, on n'est pas à l'église ici. C'est pas qu'on va se confesser avec le prêtre, il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, quand on se confesse, c'est avec Allah. La relation de l'être humain, il est direct avec Allah. Donc que chacun prenne conscience. Il prend une feuille, il écrit numéro de 1 à 1. J'allais dire de 1 à 10, je sais que ça s'arrête à 10. Maintenant, si c'est de 1 à 100, bon, c'est plus compliqué. Prenez une grande feuille, il faut un format A3. Mais bon, faites un listing de tous nos erreurs. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites un film de votre journée. Depuis que je me réveille le matin, et vous écrivez, qu'est-ce que je fais comme péché? Déjà, si vous la lève 7 heures, c'est déjà le premier péché. Là, je me lève tard. Après le lever du soleil, je ne fais pas Fajr. Ensuite, passez d'étape en étape. Si c'est un monsieur, c'est dit que voilà, dès quand je me lève, je fais quoi? Ben, je me lève, je vais à la salle de bain, je me rase. À dire, ah, deuxième péché, se raser, contraire à la sunna. Troisième chose, j'allume la radio, je commence à écouter les radios Freedom, je commence à écouter, enfin, vous allez dire que j'ai quelque chose contre Freedom. Non, je commence à écouter la musique. Donc, dit, aïe, troisième péché. Et ainsi de suite. Quatrièmement, j'arrive au travail, je vois les collègues, ça va, tu vas bien, ça va, bon week-end, t'as passé un bon week-end, je fais la bise. Je dis, aïe, ça c'est un péché aussi, j'énumère. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Arrivé à midi, pause déjeuner. Je vais prendre un sandwich chez le bar d'en face, je ne vous demande pas, est-ce que son poulet est halal, pas halal, oui, ça c'est un autre problème, et ainsi de suite. Arrivé l'heure de salat au dhuhr, ben c'est ma pause déjeuner, c'est pas ma pause namaz. Donc je mange, je ne fais pas ma salat. Aïe, ça c'est un gros problème, je ne vais pas, et ainsi de suite. Que chacun fasse une liste de ses péchés et qu'il garde pour lui. S'il y a 10, il y a 10, il y a 2, alhamdoulilah, on est un homme pieux. S'il y a 50, il y en a 50, il y a 100, il y a 100, peu importe, mais qu'on soit conscient que voilà, mes erreurs, c'est là. Et si on fait ça, Allah Ta'ala voit également qu'on est en train d'essayer de trouver une solution, on est en train d'essayer d'avancer vers lui. Ça, c'est un exercice pratique, ça. Et vous savez le hadith qui dit que quand un musulman fait un pas vers Allah, Allah Ta'ala fait deux pas vers lui. Et à la fin, il dit que si quelqu'un vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. En courant, c'est une métaphore. C'est-à-dire que Allah attend de nous un effort. Montrez à Allah que vous avez la bonne volonté, que vous voulez avancer et vous allez voir comment Allah Ta'ala va nous ouvrir les portes. Allah va nous accepter. Donc déjà, le musulman, il fait une liste de ses péchés et il va se rendre compte que, oulala, tout ça en une journée, mais donc tout ça en un mois, tout ça en un an et tout ça régulièrement en une vie. Il dit, mais quand je vais me présenter devant Allah, quand le livre là me sera donné, ben ce sera à peu près ça. Là j'ai déjà une petite idée du livret de compte qui me sera remis. Il dit, gros problème ça. C'est un gros, gros, gros problème. Et donc, premièrement, il va prendre conscience qu'il fait des péchés. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'il va essayer d'énumérer, de cocher les priorités. Tel péché, je vais essayer d'y remédier. L'objectif c'est de trouver une solution. Comment arrêter tel péché? S'il y en a 4 ou 5, on peut essayer de les arrêter tous en même temps. S'il y en a 100, on ne peut pas tout arrêter en même temps. Enfin, on aimerait, mais on ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain. Sauf si Allah nous accepte. Mais essayez de trouver une solution à chaque péché. Si mon problème, là on parle aux jeunes, si mon problème c'est la bise aux filles à l'école, c'est trouver la solution. C'est quoi la solution? Dès la rentrée, on est en vacances là, dès la rentrée, c'est une nouvelle année scolaire qui commence. Hein, quand on commence, je passe en première, je passe en terminale et tout. Ben, des nouveaux amis. Nouvelle classe, nouveaux amis. En général, on change de classe. Mais ben, dès le départ, on fixe des règles. Quand il y a des filles qui viennent et tout, disent, écoutez, bonjour, tu vas bien. Je vous dis dès le départ, je suis musulman. Voilà, c'est une fille, je suis musulmane. On va être amis, pas de soucis. Enfin, amis aussi, hein, au moins, le moins. Enfin, ok. On va être amis, on travaille, on est dans une même classe. Mais je ne fais pas la bise. Si dès le départ, on annonce, on met en garde, on prévient, je vous assure que ça marche. Et ça marchait pour nous. On était au collège, j'ai l'aide de Dieu, on était au lycée, le Comte de Lille, on a passé le bac, on a été à Oumoufia, à l'université, jamais eu à faire la bise à quiconque. Pourquoi? Parce qu'on expliquait au début de l'année. Dire que voilà, si vous le faites au cours de l'année, toute l'année, pendant deux trimestres, vous faites la bise aux filles ou aux garçons, et que tout d'un coup, tu ne me fais plus la bise. Dites quand fait ça, l'ami Sauvage, l'ami Ben Laden, que ça fait l'âme de Ben Laden, la monture. On ne comprend pas. Ou alors les gens vont dire que oui, c'est un mal élevé, il est mal poli. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'on ne fait pas la bise. Pour eux, il n'y a rien de mal dedans. Mais nous, on sait que ce n'est pas bien. Donc, dès le début de l'année, on explique quels sont nos principes. Et vous allez voir que, inchallah, vous n'aurez plus à le faire. Et les gens vous respecteront. Dit que bah, lui, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Enfin, tu dis ça pour draguer non plus. Hein, mais lui, il sait ce qu'il y a. Il a des principes. Et les gens vont respecter ce principe. Donc là, on a cité un exemple. La bise à l'école ou au travail, ça peut être au travail aussi, donc fixer les règles. Et j'ai un ami qui travaille, ben, je ne vais pas vous dire où, mais un truc gouvernemental, quelque chose de très grand. Il est ingénieur, cadre A, et il m'a dit que bon, ben, il faisait la bise à tous ses collègues, mais alhamdoulilah, Allah lui a donné tawfiq, peu à peu, il a commencé à fréquenter la masjid, garder la barbe, et maintenant, il est de plus en plus proche, alhamdoulilah, de la religion. Il m'a dit que ben, à un moment donné, mais lui, c'est ennuyant, il travaillait dans cette boîte-là depuis très longtemps. Un cadre A en plus, c'est-à-dire quelqu'un qui chapote un peu, il a des gens sous sa coupe. Il a dit aux gens, bon, à partir, j'ai pris quelques résolutions, après ce Ramadan, je ne fais plus la bise. Et les collègues ont accepté. Il m'expliquait il y a quelques jours, il me disait que même quand il y a un stagiaire, il y a des stagiaires qui viennent, qui parlent, et les personnes qui encadrent les stagiaires disent que, oui, mais monsieur Intel, lui, il fait pas la bise, hein, je te préviens, ça c'est ton cadre, c'est ton patron, il fait pas la bise. Et donc, il m'a dit que maintenant c'est fluide, ça se passe normalement. Bref, c'était un exemple pour qu'on comprenne que pour tout péché, il y a une solution. Si mon problème c'était l'alcool, là on va un peu à l'extrême, mais comment arrêter? Déjà durant le mois, on ne boit pas. En état de jeûne, on ne boit pas. Qu'arrive le soir, après ça, Tarawih, ils ne disent pas. C'est rare. Enfin, quasiment pas un musulman qui retourne vers la boisson le soir, non. Donc, un mois, je n'ai pas bu. Ben, j'essaie de garder la bonne habitude. Un, je ne fréquente plus les endroits où on vend de l'alcool. Je ne vais plus dans les bars avec mes amis. Et j'essaie de m'éloigner des groupes d'amis qui ont l'habitude de boire, qui me poussent vers la consommation d'alcool. Et ainsi de suite. Si mon problème, parmi la liste de péchés, le péché numéro 9, papa, maman, big problem. Entends pas. J'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Problème clash entre moi et mes parents en permanence. Ou alors, j'ai 25 ans, 26 ans, jeune marié, problème. Parce que le belle-mère, il est sous la main, il sait dire moi comment il faut mettre mon ménage et tout. J'ai problème avec mes parents parce que je suis un jeune marié. Ou alors, j'ai 35 ans, j'ai mon enfant, je suis père de famille, mais j'ai des problèmes avec mes parents parce que ils essaient d'entrer dans l'éducation, ils essaient de m'influencer dans la manière d'éduquer mes enfants. Bref, dans toutes les étapes de la vie, parfois on peut avoir des problèmes relationnels avec les parents. On peut avoir, mais on n'a pas le droit d'avoir. C'est des situations qui peuvent exister, mais qu'on doit absolument mettre de côté. On doit trouver la solution tout de suite. Parce que jamais un musulman n'a le droit de s'opposer, j'allais dire de manquer de respect, de s'opposer à son père ou à sa mère. Donc si mon problème c'est ça, trouver la solution, comment faire en sorte de me réconcilier avec mes parents et demander pardon à mes parents avant tout, et trouver les solutions. Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours, de mon comportement qui déplaît à mon père et à ma mère, et qu'est-ce que je peux faire pour obtenir leur contentement, etc. Donc, le listing là, mes chers frères et sœurs, c'est un grand signe qu'on a envie de changer durant ce mois. On a envie de reconstruire sa foi, de colmater ses brèches et de se rapprocher d'Allah. Et avec le listing de nos péchés, on essaie, inchallah, de trouver des solutions. Même si tous les ans on arrive à arrêter 5 péchés, mais en 5 ans de Ramadan, ça nous fera 25 péchés. Il est possible qu'en 10 ans, alhamdoulilah, on n'a plus vraiment de péchés quotidiens. Ça, c'est extrêmement important. Donc la première feuille, les devoirs à faire à la maison, c'est le listing de péchés. Et ensuite, prenez une deuxième feuille, les objectifs à atteindre. Dites-vous bien que je dois avancer. Chaque Ramadan, je dois avancer, faire quelque chose en plus que je vais garder tout le temps. Ça peut être simple, hein. Vous savez, ce n'est pas des choses extraordinaires. Je ne vais pas vous dire que faites le tahajjud toute la nuit. Je veux dire que maintenant, à partir de ce Ramadan 2012, tous les jours, je vais faire 2 rakats de tahajjud. Pas 12, 2. C'est-à-dire que je me réveille 20 minutes plus tôt, je fais mon wuzu, je fais 2 rakats tahajjud et un peu de doigt. Ou alors, autre objectif possible, qu'à partir de cette année, parmi mes objectifs, c'est, je ne sais pas moi, ça peut être quelque chose de simple, je ne vais plus gaspiller de l'eau. Tout bêtement. Quand je fais le wuzu, quand je me brosse les dents, quand je prends mon bain, etc. Ça c'est quelque chose de haram, le israf également. Je fais en sorte d'économiser, parce que c'est quelque chose qui déplaît à Allah. Ça peut être une action réfléchie ou une action moins compliquée, mais il faut essayer d'avancer. Parmi les objectifs, à chaque fois que je rencontre un musulman, je dis « Assalamu alaikum » en souriant. Parce que c'est un devoir. Et deuxièmement, c'est une sadaqa. « Ibtissam kafi wajhi akhika sadaqa » Bien sûr, avec les messieurs. Monsieur avec monsieur. Dame avec dame. C'est pas, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Comprenez pas d'autres sens. Donc, ça peut être un des objectifs que je me fixe. Et, ou alors, autre objectif qu'à partir de ce mois de Ramadan, tous les jours, je donne 20 centimes en sadaqa. À chaque fois que je passe près de la boîte aux lettres de la masjid, chaque jour je mets 20 centimes. J'ai pas dit 20 euros, 20 centimes ou 10 centimes. Bref, que tous les jours je donne quelque chose dans le chemin d'Allah. Mes chers frères, essayons et chers sœurs, essayons de nous fixer des objectifs afin que d'année en année on progresse et on avance dans notre chemin vers Allah. Qu'Allah nous accepte. On était un petit peu plus long que prévu, mais qu'Allah Ta'ala nous donne la possibilité de comprendre les quelques paroles qui nous a donné tawfiq de dire à travers cette intervention, et qu'Allah Ta'ala renforce l'amour pour le dîn dans notre cœur, qu'Allah renforce la foi dans nos cœurs, et qu'Allah Ta'ala nous fasse prendre réellement conscience de l'importance de ce mois, et qu'il nous donne tawfiq de profiter depuis le premier jour, aujourd'hui le deuxième jour, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde du mois de Ramadan, pour faire un maximum de bonnes actions, avec fermeté durant tout le mois, et qui nous donne la constance, le istiqama de ses bonnes actions pour toute l'année. Et qu'Allah nous permet durant chaque seconde de ce Ramadan de rester éloigné des péchés durant tout le mois, mais également de rester éloigné définitivement de ce péché, de ses péchés, même durant les 11 autres mois de l'année, c'est-à-dire durant toute notre vie. Et qu'Allah nous donne la possibilité de prendre conscience de notre vie maintenant et d'essayer de garder toutes ces bonnes habitudes durant toute l'année, et qu'Allah nous accepte et illumine. Donc, ومن توفيق إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.